Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.
Salut à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors, vous avez peut-être envie d'investir dans l'immobilier, mais vous n'avez pas de temps à y consacrer. Ou alors, vous ne souhaitez pas vous aventurer dans la visite de biens et préférez juste placer votre capital sur un investissement immobilier tranquillement. Alors, sachant que cela est possible, il s'agit de l'investissement dans la pierre papier, ou plus exactement dans les SCPI. Problème, avec la crise de l'immobilier actuelle, est-ce encore une bonne idée et vers quel support s'orienter, Gaëtan ?
Eh oui, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'investissement dans les SCPI. Et cela tombe très bien, car nous avons le plaisir d'accueillir Paul Bourdois, qui est cofondateur de France SCPI et également auteur du livre « Les SCPI pour les nuls ».
Alors Paul Bourdois, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler comment ça marche, comment fonctionnent les SCPI et quels sont les avantages?
Alors, je peux vous le rappeler, bonjour à vous deux, merci de m'avoir invité. La SCPI, c'est un produit assez simple, assez basique, qui existe depuis une soixantaine d'années, c'est une société, hein, une société civile de placement immobilier qui achète des biens, des actifs, qui se constitue un portefeuille immobilier. Donc ça peut être, la plupart du temps, ce sont des biens qui sont professionnels. Donc qui dit professionnel dit bureau, commerce, entrepôt, hôtel, etc. Tout ce qui vient, tout ce qui est contraire au résidentiel. Et donc en se constituant ce portefeuille, eh bien évidemment, elle va le mettre en location. Donc il va y avoir différents locataires dans ce portefeuille et elle va encaisser les loyers. L'épargnant particulier peut acheter une ou plusieurs parts de cette société, de cette SCPI, et en contrepartie de son achat, de son investissement, il va percevoir des dividendes au prorata de ce qu'il a investi. Et vous me posiez la question des avantages, c'est ça ?
Exactement.
Les avantages, assez simplement...
On est dans Investir Malin, donc il s'agit d'avoir des avantages.
Les avantages, alors évidemment, le rendement qui est important. Depuis quelques temps, on est aux alentours de 4,5% en moyenne, sachant qu'il y a des SCPI qui peuvent aller jusqu'à 8% de rendement, donc c'est quand même sympathique. On a une stabilité dans le rendement aussi, ça c'est important de le noter, c'est un des avantages. On a effectivement depuis 30 ans, donc depuis les années 80 passé quelques crises, et bien depuis ces années 80, on n'a jamais eu un rendement des SCPI en moyenne qui était inférieur à 4% et jamais supérieur à 8%. Donc on est dans une bande passante, certes sinusoïdale, mais qui est extrêmement rassurante pour l'épargnant. Je peux me projeter. On a effectivement un cadre qui est réglementé, qui fait que c'est pas le Far West. Les sociétés de gestion qui gèrent les SCPI ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et puis, on a évidemment une mutualisation du risque qui est importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas investi sur un seul bien avec un seul locataire. Si un locataire arrête de payer, eh bien j'en ai d'autres de manière indirecte. Et puis, le dernier, et pas des moindres, c'est, je vais rester poli, mais un minimum d'embêtement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de gestion de locataire, pas de gestion de travaux, et ça, c'est quand même un des avantages importants.
Il le vend bien, Gaëtan.
Oui, on peut dormir sur ses deux oreilles. Alors, merci pour donc ce rappel et puis tous ces avantages. Maintenant, quels sont les risques ou tout au moins les points de vigilance pour l'investisseur quand il achète justement ces fameuses parts de SCPI, ce morceau de biens immobiliers ?
Oui, alors... C'est bien de le dire parce que souvent on parle des avantages mais on parle moins des inconvénients. Les inconvénients, c'est les mêmes que dans l'immobilier classique, c'est-à-dire qu'on a une non-garantie du loyer. Évidemment, personne ne vous garantit, et c'est ce que j'évoquais à l'instant avec la sinusoïde des rendements, personne ne garantit que vous allez avoir 4 ou 8% ou un peu moins. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Vous avez une non-garantie du prix de la part. Un peu comme dans l'immobilier classique, personne ne peut vous garantir qu'en achetant un studio à 50 000 euros, à Paris c'est de plus en plus compliqué, mais un studio à 50 000 euros, personne ne vous garantit que dans 10 ans, quand vous le revendrez, il vaudra 50 000 euros. Peut-être il vaudra plus, peut-être il vaudra moins. Dans les SCPI, c'est exactement la même chose. Et puis, on a aussi une troisième inconvénient ou risque, point de vigilance, on a un risque de liquidité, c'est-à-dire qu'on peut ne pas recevoir ces fonds tout de suite quand on décide de vendre. En moyenne, ce qu'on constatait auparavant, avant qu'il y ait quelques turbulences sur le marché immobilier, c'était entre 3 semaines et 1 mois et demi. Mmh. C'est quand même relativement rapide pour de l'immobilier. Aujourd'hui, ça se tend un peu plus. Et évidemment, il faut faire du cas par cas. Donc, un risque de liquidité. Et enfin, et c'est exactement pareil pour l'immobilier classique, on s'engage quelque part, même si on n'est pas bloqué, pour du long terme. Le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc, nous, on conseille à nos clients de s'engager sur 10 ans minimum.
Voilà. Exactement, on n'est pas dans le bitcoin à la nanoseconde. Alors, de quel type d'actifs se compose une SCPI et est-ce qu'il faut en privilégier plus que d'autres? Vous l'avez un tout petit peu effleuré, la première question. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, bon, vous conseillez, je vais faire une réponse de Normand, même si je suis breton. C'est un point positif. Ça dépend de votre situation patrimoniale, financière, évidemment, votre aversion au risque. Il y a différentes classes d'actifs que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez investir à travers les SCPI. Celle qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les bureaux, puisque la profondeur de marché est plus importante, mais c'est la plupart du temps aussi les actifs qui rémunèrent le moins. Vous avez également des commerces, un tout petit peu plus marginalement. Vous avez aussi des biens qui sont liés au tourisme, donc l'hôtellerie classique et puis l'hôtellerie business. Vous avez également des biens liés à la santé, des biens liés à la logistique. Vous conseillez des biens plus que d'autres, c'est compliqué, ma foi. En revanche, si vous voulez avoir plus de rendement, la plupart du temps, il faut aller vers des SCPI qui sont un peu plus, des typologies pardon, d'actifs qui sont un peu plus niches, type logistique ou santé également, qui rémunèrent un peu plus.
Logistique ou santé?
Alors, on va pas se mentir, hein, ce qui intéresse nos auditeurs, ce sont les chiffres et les rendements. 2023, on le constate, a été une année très difficile pour l'immobilier. Il y a eu l'augmentation des taux qui donc a réduit la demande et la valeur des biens. Je pense que les SCPI ont pas pu échapper à cet effet et donc ont dû revaloriser la valeur de leur part, souvent à la baisse, parfois jusqu'à 15%. Alors selon vous, quelles sont les perspectives, on va dire, dans les mois et années à venir?
Est-ce qu'on reste dans cette fameuse bande passante de 4 à 8% dont vous parliez?
Sinusoïdale.
Sinusoïdale. Mais donc là, on est peut-être en bas de la sinusoïde.
Alors, je ne suis pas devin, et si vous commencez à vous prédire l'avenir, c'est qu'il faut fuir. En revanche, il y a des points de convergence.
Il y a des signaux aussi.
Il y a des signaux, tout à fait. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la valorisation de la SCPI et puis son rendement. Il y a des SCPI, en effet, en 2023, qui ont dévalorisé leur prix de part de 15%. Ça s'est allé jusqu'à 15%, en effet. Et c'est pas pour autant que leur rendement a baissé. C'est-à-dire que les euros reçus sur le compte courant de la personne qui a investi, ça reste, bon an mal an, toujours les mêmes.
Alors, pour nos auditeurs, excusez-moi, c'est un petit peu comme si on avait un studio à louer. En fait, sa valeur en elle-même peut baisser de 15%. En revanche, le prix du loyer reste comme il était auparavant.
Exactement. Votre locataire, ce n'est pas parce que votre studio qui vaut 100 000 euros, pour prendre un chiffre rond, passe à 90 000 euros ou 85 000 euros, que vous allez baisser votre loyer. Vous n'allez pas appeler votre locataire pour vous dire « la valeur a baissé, je baisse aussi votre loyer ». Non. En général, on garde le loyer. Donc, c'est deux choses distinctes, comme dans l'immobilier classique. Et donc, dans les SCP, on retrouve aussi ce principe. Et donc, là, pour le coup, la sinusoïde, on est en bas ou en haut, plutôt en bas, je pense. On a toujours un rendement qui a été en 2023 de 4,52. Il semblerait, avec les quelques mois passés de 2024, qu'on se dirige vers la même chose. Donc, c'est parfait. Et évidemment, c'est une moyenne. Et du coup, j'ai beaucoup parlé, j'ai oublié votre question.
Non, c'était les perspectives.
C'était les perspectives, hein, exactement.
Mais, pour revenir là-dessus, je pense que effectivement, on a encore quelques années où il va falloir consolider. Il y a certaines SCPI qui ont fait des choix il y a quelques temps, qui ont acheté peut-être à la hâte au vu du succès qu'ont eu les SCPI. Et donc aujourd'hui, elles sont obligées de corriger leur valeur, leur prix de part, comme elles l'ont fait. Peut-être vont-elles continuer pour certaines. Et donc, on est dans une attente sur certaines SCPI. Ouais.
Moi, j'ai quand même envie de revenir, Paul Bourdois, sur un point, la nature des sous-jacents de ces SCPI. En particulier, le développement du e-commerce du télétravail, est-ce qu'ils ne remettent pas en question finalement d'investir dans des SCPI qui auraient ce type de sous-jacent ? Parce que le e-commerce finalement fait que nos centres-villes se désertent et puis il suffit de se balader entre guillemets autour des bureaux de la Défense pour voir qu'il y a beaucoup de bureaux fermés. Comment analysez-vous les conséquences de cette évolution ?
Alors, le Covid, bon, c'était déjà il y a quelques temps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous investissez dans les SCPI, vous avez accès indirectement à une multitude de biens. En moyenne, c'est une cinquantaine de biens par SCPI et en moyenne, trois locataires par bien. Donc, on est ventilé quand on investit indirectement sur 150 baux en moyenne. Donc, oui, vous pouvez avoir des bureaux qui sont en effet vides à la Défense ou des commerces, des centres-villes de villes moyennes qui sont désertés. Mais, et c'est là tout l'intérêt des SCPI, c'est que c'est leur métier et quand on parle de commerce, on ne parle pas que de commerce de centre-ville. Alors moi, je viens du centre-Bretagne, donc je vois très bien de quoi vous parlez, de la désertification, mais à Paris, concrètement, ou dans des grandes métropoles françaises, ça peut être Rennes, Lyon, Lille, Marseille, les rues commerçantes, pardon, elles ne sont pas désertées. Au contraire, il y a eu un regain, et on s'est bien rendu compte de la performance des SCPI liées au commerce directement. Elle sous-performe pas du tout par rapport à la moyenne.
Parce qu'elle reste sur des grosses agglos et non pas sur des villes moyennes.
Absolument, absolument.
Alors, il y a une question qui me vient là. Tout à l'heure, vous parliez du fait que la SCPI c'était assez bien encadré. Comment et qui évalue les actifs des SCPI ? Parce que on pourrait très bien imaginer justement des gestionnaires un peu mal attentionnés et qui, avec les fluctuations du moment, ne répercutent pas forcément la décote en fait du bien et on aurait donc des parts qui seraient soit surévaluées, soit sous-évaluées.
Alors c'est assez strict hein, comme cadre. En effet, vous pourriez dire bon bah moi je pense que mon patrimoine vaut tant, et donc voilà ce que ça vaut. Et vous en faites ce que vous voulez. Non, l'AMF qui surveille tout ça de très près dit aux gérants, donc aux sociétés de gestion qui structurent et qui gèrent les SCPI, elle leur dit vous êtes obligé au moins une fois par an de faire évaluer par un évaluateur indépendant votre patrimoine. Donc tout ceci donne ce qu'on appelle une valeur d'expertise. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut pas tricher. Ça donne une valeur d'expertise qui, attention, vous êtes prêts à rentrer un peu dans le technique, qui donne ce que l'on appelle une valeur de reconstitution. Donc la valeur de reconstitution, c'est combien vaudrait ma part si je devais reconstituer le patrimoine aujourd'hui à l'identique. Donc on met la valorisation du patrimoine, on met les emprunts, tous les frais qu'on devrait dépenser, engager si on devait faire appel à un agent, bref, ça donne une valeur de reconstitution. Et attention, je rajoute une couche de technique, cette valeur de reconstitution ne peut pas être éloignée de plus de 10% du prix de souscription. Ça veut dire que le prix de souscription, je ne sais pas si j'ai été très clair,
c'est clair. Mais
le prix de souscription, il est dans une sorte de tunnel plus 10, moins 10, qui fait qu'on voit très clairement si on achète, et d'ailleurs j'invite tous les personnes qui s'intéressent aux SCPI à regarder le prix de souscription, le prix auquel on achète la part et la valeur de reconstitution pour savoir s'ils achètent de manière sous-évaluée ou surévaluée.
D'accord. Oui, très bon conseil. Oui, allez, on enchaîne, on a plein de questions encore. Lorsque l'on enchaîne, on achète de l'immobilier physique, eh bien, on a classiquement les fameux frais de notaire. Alors finalement, pour les SCPI, bonne nouvelle, on n'a pas de frais de notaire, mais on a des frais de souscription, frais de souscription qui sont d'ailleurs à payer à la sortie. Donc, en fait, de combien sont ces frais et puis quels sont tous les autres frais possiblement qu'on peut trouver à l'entrée, pendant l'exploitation et à la sortie ?
Alors, il y a des frais qui sont importants hein, dans les SCPI, et ce qu'on appelle les frais de souscription qu'on confond communément avec les frais d'entrée. Les frais de souscription que vous supportez à la revente, en général, ils peuvent aller de 7% à 12%. Donc, j'investis 100 000 euros.
On va investir sur de long terme.
Exactement, ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure, justement. J'investis, si les frais de souscription sont de 10%, j'investis 100 000 euros. Ce matin, je revends mes parts cet après-midi. C'est une très mauvaise opération parce que je ressors avec 90 000 euros. Bon, d'où la nécessité de conserver ses parts, comme vous le disiez, un certain temps pour amortir ses frais et pour les amortir, notamment avec les rendements encaissés. Il y a une nouvelle génération de SCPI qui arrive et qui dit, bah, nous, les frais de souscription, on les met à zéro. Ça veut dire que j'achète ma part, j'achète 100 000 euros de SCPI, et bien je les revends 100 000 euros.
Mais il se rattrape ailleurs.
Mais il se rattrape ailleurs. Et évidemment, personne n'est philanthrope. À part vous, peut-être. effectivement, et ce qui me permet de rebondir sur la deuxième partie des frais, il y a des frais qui s'appellent les frais de gestion. Donc, ce sont des frais que la société de gestion prend pour se rémunérer, pour rémunérer son travail de gestion, d'activité de gestion locative. Et en général, ces frais, ils sont pris sur les loyers qu'elle encaisse.
D'accord.
Donc quand on se parle de frais de taux de distribution, par exemple ma SCPI a 5% de taux de distribution, ça veut dire que c'est vraiment 5% net dans ma poche.
Net
de tout frais. Et puis pour terminer sur les frais, vous avez d'autres frais qui sont parfois pris par les sociétés de gestion, qui sont des rémunérations pour frais d'acquisition ou frais sur la revente, etc. Donc ça, vous pouvez le voir dans les statuts, dans les notes d'information des SCPI. Elles détaillent très clairement les frais. Et effectivement, si vous n'avez pas de frais de souscription, classiquement, vous avez un peu plus de frais par ailleurs.
Alors, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, et puis vous venez d'en parler, la revente. Si on souhaite justement revendre ses parts pour aller soit vers un autre support ou un autre projet, est-ce que c'est facile et comment on s'y prend ?
Alors, c'est assez simple. Vous n'avez pas à faire une annonce sur le bon coin ou se loger. Vous remplissez ce qu'on appelle un bulletin de cession. J'ai pas retrouvé le terme exact, mais ça va me revenir. Et effectivement, vous remplissez cet ordre de cession. Vous mettez votre état civil, point, et vous envoyez à la société de gestion qui enregistre bien votre demande de cession. Et c'est terminé. Et vous attendez que les fonds soient versés sur votre compte.
Alors justement, l'attente, c'est de combien à peu près ? C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure ?
Oui, ça dépend des SCPI. En fait, certaines ont vu leur délai allongé, puisque y a une sorte d'effet de panique sur certaines SCPI pour la cession. D'autres, c'est en moyenne. Ce qu'on constatait, ce que je disais auparavant, c'était entre 3 semaines et 1 mois et demi. Ce qui, si on fait la comparaison avec un bien immobilier, est relativement court. Quand vous dites, bon, je vais vendre mon studio ou mon appartement, alors ça dépend dans quel coin, c'est toujours le même problème, mais si vous dites je veux vendre, entre le moment où vous dites je veux vendre et le moment où vous avez les fonds sur votre compte, il peut se passer plusieurs mois.
Oui.
Si vous êtes gourmand en plus.
Alors je crois que la question du mois est finalement relative à la question qui est posée par Pauline de Toulouse, qui nous dit « J'ai investi dans des SCPI il y a 3 ans et je dois revendre mes parts. Comme il y a une baisse des parts, je voudrais savoir s'il existe une sorte de marché d'occasion pour revendre à des particuliers. Est-ce que ça existe ça ?»
Bon. Oui, ça existe. Alors déjà, je sais que la vie réserve parfois des surprises, mais en général, nous, ce qu'on dit aux personnes qui nous contactent, c'est attention, n'investissez dans les SCPI que l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin en cas de problème. Bon. Et donc, 3 ans, c'est court, mais si Pauline de Toulouse ne peut pas faire autrement, elle est bien obligée de les vendre.
Après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Exactement.
Et parfois...
On a des surprises, ouais, comme je le disais.
Des surprises, ouais.
Tout à fait. Et donc, oui, il existe un marché de l'occasion. On peut retrouver, là, c'est pas une plaisanterie, des parts en vente sur Le Bon Coin. Donc,
ah bon,
ouais, sur, je ne sais pas si j'ai le droit de citer ce genre de site, d'ailleurs, mais sur des sites, vous tapez part de SCPI, donc vous avez des personnes qui vendent, mais si ça ne se fait pas via la société de gestion, si ça se fait donc comme on appelle de gré à gré, eh bien vous avez ce qu'on appelle des frais liés à la transaction et que les épargnants qui s'échangent les parts doivent supporter. Ouais, tout à fait.
D'accord.
Donc le mieux étant de dire à la société de gestion, eh bien, moi, je vous revends mes parts, je mets en vente mes parts et point. En fait, c'est tout le sujet qui s'est passé au début des années 2000, c'est que les SCPI ont subi un petit problème de liquidité et l'AMF, à l'époque, a dit « Attention, vous, société de gestion, vous êtes obligé d'organiser ce qu'on appelle le marché secondaire donc de faire un carnet d'ordre pour mettre en face à face les acheteurs et les vendeurs. »
Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Paul Bourdois. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes spécialiste de l'investissement en SCPI et cofondateur de France SCPI, également auteur du livre La SCPI pour les nuls. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
Merci Paul Bourdois.
Merci.
Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.